S&P 500, le surachat atteint un niveau extrême. Cette inertie haussière, relancée la semaine dernière par les résultats de l'action Nvidia, cette inertie haussière est-elle à risque? Point complet sur les indices boursiers américains, européens, chinois, le Nikkei japonais, naturellement les temps forts fondamentaux de la semaine. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nouveau setup. Ne faites pas attention à l'arrière de mon bureau car un écran vert va bientôt arriver et donc voilà, vous ne serez plus gêné par cet arrière de bureau encore un peu en déménagement. Mais écoutez, chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle édition du Top Gun. Nous allons naturellement parler des indices boursiers, notamment le S&P 500 qui la semaine dernière avait commencé par trois séances de correction avant, in extremis, d'être sauvé par les résultats de Nvidia. Nvidia qui a fait un nouveau record historique, finalement, c'est le S&P Nvidia qui fait de nouveaux records. Car le S&P 499, lui, ne fait pas de nouveaux records, croyez-moi. Donc, nous avons là un phénomène d'inertie haussière qui interroge, avec des troupes qui ne suivent pas les généraux. C'est même, finalement, une seule action. Vous imaginez? Une seule action. Une seule action qui a permis de faire ce nouveau record historique. Les indices européens, eux, semblent surperformer. Le marché action chinois, bon rebond, des mesures de soutien ont été annoncées par le gouvernement chinois. Bref, nous allons traiter tous ces sujets. Donc voilà. Alors, encore une fois, un fond vert arrive. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez comme ça ce nouveau setup. Désormais, vous voyez, quand je vais partager mon écran, ça va être comme ça. Je serai enfin face à vous. Ça va être un peu plus sympathique. Je vais varier les fonds d'écran et puis on va surtout, de toute façon, ici, rester concentré avant tout sur le fond. Voilà, mais voilà, vous n'aurez plus comme avant la vue sur mon écran ultra-wide. Parfois, j'y reviendrai, mais je voulais varier un peu les plaisirs, sachant que c'est avant tout le fond qui compte de la présentation. Mais voilà, pour votre confort, je souhaite varier aussi la forme. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, chers amis, c'est parti. Donc, alors, le surachat, vous savez, j'ai beaucoup hésité sur quel titre donner à cette nouvelle vidéo. Ça fait une semaine, alors que j'ai toujours, rappelez-vous, avec mon décompte en vague 5, toujours défendu la tendance haussière depuis l'automne dernier. Depuis l'automne dernier et l'enclenchement de la vague 5. Mais depuis une semaine, j'insiste sur les risques correctifs. Il s'avère que l'action Nvidia a sauvé le S&P 500, qui a fait un nouveau record historique. Encore une fois, sans Nvidia, le S&P 500 n'aurait pas fait de nouveau record historique. Alors, aurait-il corrigé? Pas pour autant. Il serait resté en trading range, sous les 5066 points. Bon. Alors, que faut-il penser de tout ça? Je vais faire avec vous le tour d'horizon aussi de toutes les stars de la tech, car il n'y a pas qu'Nvidia. Il y a aussi Facebook qui est complètement perché. Amazon qui approche de son record historique. Mais Apple qui est sur support. Même Tesla, vous voyez. Bon, on va voir. Alors, au final, vous savez, cette tendance haussière, elle reste drivée par. Alors, bien sûr, il y a les Magnificent Seven, il y a une distorsion. Très bien. Bon, il y a quand même en trame de fond cette perspective de voir la réserve fédérale pivoter, même pourtant ça a été reporté dans le temps. Et il y a toujours ces bénéfices qui restent en hausse, ces bénéfices prospectifs, mais là aussi, c'est vraiment concentré sur une sélection de 10-15 valeurs. Si vous prenez les bénéfices des actions du Russell 2000, les 2000 plus importantes de capitalisation boursière, c'est en baisse. Donc, voilà. Donc on va reprendre tout ça. Alors, S&P 500, le surachat atteint un nouveau extrême. J'aurais pu aussi titrer l'inertie haussière est-elle en danger? Bon, enfin voilà, un peu ce qu'on veut. Alors, du coup, je vous montre le plan. Je vous montre le plan. Le bon vieux micro n'a pas disparu. Le micro est toujours ici. Mais voilà. Donc, alors, nous allons regarder ensemble ce petit plan. Qu'est-ce que je vais vous proposer? À quelle sauce allons-nous être mangés? Alors, oui, d'abord, alors je vais commencer par trois risques pour une correction majeure du S&P 500. Alors, mais attention, attention. Non, oui, parce que vous me connaissez, j'ai beaucoup défendu depuis plusieurs mois la tendance haussière, à la fois sur le plan technique, et je vais tout reprendre là dans cette vidéo. On va reprendre le S&P 500 en détail, les hypothèses, le technique, les extensions, où est-ce qu'on en est? 5100 points, est-ce que c'était un objectif de court terme? On va tout reprendre. J'ai toujours défendu cette tendance haussière, et je mets en avant depuis une semaine des risques correctifs qui sont liés à un surachat technique sur des horizons de temps de moyen terme. Notamment l'horizon de temps. Mais il s'avère que, là, pour commencer cette vidéo, j'ai envie, une fois n'est pas coutume, d'insister sur ce qui pourrait faire trébucher. Moi, je ne suis pas un permabeur, heureusement. Bon, les permabeurs ont quelques difficultés actuellement. Mais il existe, et j'ai voulu donc quand même rappeler, remettre en avant en introduction ces risques. Donc, trois risques, les temps forts fondamentaux de la semaine, je vais vous les présenter. S&P 500, un surachat extrême. Alors, on va voir dans les Magnificent Seven lesquels sont vraiment un surachat extrême, mais elles ne le sont pas toutes. Indice européen, analyse technique d'une surperformance. Indice chinois, nous pouvons nous applaudir puisque je pense qu'on a topé le point bas, avec en plus de nouvelles mesures de soutien du gouvernement chinois. Alors c'est parti, on commence directement. J'espère que ce nouveau setup vous plaira. Et encore une fois, s'il vous plaît, soyez indulgents pour le fond. C'est un fond de bureau en plein déménagement, mais c'est provisoire puisqu'un fond vert arrive et bientôt, voilà, vous ne verrez plus tous ces cartons, toutes ces caisses qui sont derrière moi. Alors, trois risques fondamentaux pour une correction majeure de l'indice S&P 500. Point d'interrogation, naturellement, car pour l'instant, nous avons une inertie haussière. Alors, ces risques. Alors, tout d'abord, vous avez eu la semaine dernière le nouveau record historique de l'indice S&P 500. Voilà, c'est un fait, hein, le nouveau record historique de l'indice S&P 500. Voilà, qui a été permis. Vous voyez, ici, il y avait la possibilité que le marché fasse un double top. Cette bougie, c'est l'action Nvidia. Ce n'est rien d'autre que l'action Nvidia. D'ailleurs, Nvidia qui atteint une extension majeure, on ne peut pas faire mieux. C'est une fois du bas de la 1 au top de la 3, bas de la 4. Là, c'est bon. Regardez le surachat extrême sur l'indicateur technique RSI qui a atteint Nvidia. Non, mais c'est pas rien. Donc, oui, effectivement, pourquoi parler là de risque, le nouveau record historique? Nous sommes toujours dans cette vague 5 en extension pour laquelle je vais tout reprendre. Moi, j'ai toujours défendu la vague 5. Par contre, j'avais ici des objectifs théoriques qui étaient mesurés, qui étaient des objectifs usuels de vague 5. Sauf que la vague 5 est allée au max du max. Au max du max. Peut-elle encore aller plus haut? Oui, il existe encore un objectif. Ça peut s'arrêter à tout. Nous sommes dans un intervalle où ça peut s'arrêter à tout moment. Eu égard à l'extension et au surachat. Mais revenons quand même à nos moutons. Donc, nouveau record historique, grâce à la poursuite de la bulle spéculative sur, je me permets de parler de bulle spéculative, sur la bulle spéculative sur l'action Nvidia. Bon, avec Wall Street qui est quand même toujours soutenu par la perspective d'un pivot de la Fed et des bénéfices du S&P 500 qui sont toujours en hausse. Alors d'ailleurs, à ce niveau-là, avant de mentionner les risques par rapport au S&P 500, vous avez ici une première infographie qui nous vient de FactSet qui montre qu'il y a effectivement une réaccélération de la croissance des bénéfices au quatrième trimestre 2023, avec en plus, mais c'est en grande partie, vous voyez ici là, tout ça c'est en grande partie basé sur les Magnificent Seven. Et d'ailleurs, de la même façon, les perspectives de bénéfices sont en grande partie aussi ici basées sur les Magnificent Seven. Mais c'est un fait que ces anticipations de bénéfices sont toujours positives. Alors d'ailleurs, j'ai ici les toutes dernières données. Il convient de noter que les analystes prévoient actuellement une croissance de chiffre d'affaires pour chacun des 4 trimestres 2024 qui est en hausse. Donc, effectivement, il y a encore des perspectives de bénéfices. Et rappelez-vous, alors certains parfois me demandent, oui, mais voilà, comment est-ce possible avec les taux d'intérêt? Je vous ai expliqué la semaine dernière, rappelez-vous, la question de la maturité de la dette. La plupart de ces grands groupes se sont endettés à taux fixe entre 2015 et 2021. Et à des taux bas. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est quand est-ce qu'ils vont devoir se refinancer au taux actuel. Et il s'avère que le pic de maturité, ce n'est pas 2024, c'est 2025. 2024 est une année de maturité nettement plus que 2023, mais le pic de maturité serait quelque part au milieu de l'année 2025. Ça peut être une des explications du développement, hors l'effet Nvidia, de développement de la poursuite de cette tendance haussière du S&P 500. Alors, bon, clairement, il y a de la place désormais sur le plan technique, j'y viens tout à l'heure. Maintenant, je voulais ici, je vous avais dit, je voulais en première partie Parce que souvent, on me reproche, je ne sais pas si vous en faites là, le reproche, mais souvent, on me reproche de ne pas mentionner les risques. Je ne suis pas un collapsologue, vous me connaissez. Voilà, moi, je suis les tendances et je suis de nature optimiste. C'est comme ça. Mais, imaginons, moi, je ne crois pas à un scénario de krach boursier de 40%, que beaucoup attendent de longue date. Ah, bon. Mais imaginons qu'un jour puisse se développer sur le marché actions américain une correction à deux chiffres, mais qui commencerait plutôt par un 2. D'où cela pourrait venir? Alors, je vous propose, et ensuite on passe au court terme, on passe vraiment au sujet. Il y a trois risques. Il y a tout d'abord, bien sûr, l'absence de pivot de la Fed cette année. L'absence de pivot de la Fed cette année, eu égard à la résilience de l'inflation. Alors, nous, je vous ai démontré dans une vidéo il y a 2 semaines, dans la semaine dernière, que vous aviez une résilience du CPI, mais qui était liée à des phénomènes provisoires, et notamment un rebond provisoire de l'inflation immobilière. Moi, j'y crois pas, mais voilà, pour certains, la Fed, certains disent que la Fed ne pivotera pas cette année. Regardez ce que je vous ai mis ici. Vous avez ici, en bas à droite, où est-ce que je vous ai trouvé ça? Ici. Non, pardon, c'est là. Vous avez ici, regardez, ça nous vient de Bloomberg et de la Fed d'Atlanta. Vous avez ici les anticipations, les probabilités d'action de la Fed cette année. Vous avez quand même plus de 10% de probabilité d'une hausse supplémentaire, one hike or more. Donc il y a quand même encore, même s'ils sont une minorité, il y a quand même encore 10% du collège électoral de la haute finance qui pense que la Fed peut monter son taux directeur de 5,50 à 5,75. Alors là, oui, forcément, les obligations reviendraient tout en bas et le marché action prendrait sa claque. Mais, overall, le marché price maintenant plutôt autour des 3-4 baisses de taux. Mais ça va très vite. Alors, pour l'instant, encore une fois, j'y reviens. La désinflation n'est pas menacée. Regardez Trueflation qui fait encore un nouveau plus bas. Regardez l'inflation immobilière selon Trueflation, qui certes avait rebondi en janvier à 4%, qui retombe et qui est déjà retombé à 3,63. Bon, je ne refais pas tout le laïus explicatif sur cette inflation, mais voilà, ça c'est un risque. Risque second, bien sûr, le risque géopolitique avec les multiples conflits existants entre la Russie et l'Ukraine soutenue par les Occidentaux, au Proche-Orient. La mer Rouge, le canal de Panama, la Chine qui envahit Taïwan. Bon, vous savez, Taïwan, je pense qu'on n'aura pas de guerre tout de suite, eu égard au fait que si c'est la foutoir à Taïwan, c'est avec ses 80% des semi-conducteurs Taïwan. Ça fournit tout. Vous savez que Nvidia, ses usines de production, c'est une société qui est à Taïwan. D'accord? Donc, bon, ça, on parle plutôt là d'un risque géopolitique dans 10 ans. Donc là, c'est plutôt la Russie et l'Ukraine, le Proche-Orient, et encore on voit que bon, l'armée américaine et la marine britannique agissent en mer Rouge, et on voit que le prix du pétrole ne s'envole pas encore. Donc, mais voilà, ça fait partie des choses que les collapsologues, ou non, ou simplement ceux qui listent des risques, mettent en avant pour dire le S&P 500 va s'effondrer. Mais vous allez voir que moi, je ne fais pas partie de ces gens-là, mais je vais quand même réinsister dans cette nouvelle édition du Top Gun sur le risque technique de retracement. Car comme nous sommes dans cette vague 5 qui est en surextension, je vais reprendre tout avec vous, jusqu'où ça peut vraiment aller, mais il faudrait une seule séance de rupture baissière donnerait le point de départ d'un retracement à 4008. Pour l'instant, elle était à deux doigts d'avoir lieu mercredi dernier, et avec les résultats fantastiques d'Nvidia, alors sont-ils trafiqués ou pas? Je ne joue pas à ça ici. On prend les fesses et tout. Donc, peut-être que ce n'a été qu'une semaine de répit. Alors, ça, il faut regarder aussi les autres Magnificent Seven. Et il y a d'autres Magnificent Seven qui sont plutôt sur support. Alors, je regardais Apple, alors, je regardais Tesla. Bon, vous voyez, donc, il n'y a pas que Nvidia, mais c'est Nvidia qui a permis d'assurer l'inertie haussière la semaine dernière. Et enfin, bien sûr, l'immobilier commercial, ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres Top Gun. Cet immobilier commercial qui est ravagé par la chute des revenus, la chute des ventes et la hausse des taux d'intérêt, qui là pour le coup ont été faits vraiment à taux variable, Hein, parce que ceux qui font. Les boîtes qui ont fait des taux à taux fixe, des prêts à taux fixe à taux zéro, c'est les gros groupes. Dans l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau, c'est des taux variables. Et d'ailleurs, je vais vous montrer cette infographie aussi, Knut Bloomberg. Quels sont en termes de crédit, quels sont les agents qui sont le plus exposés à ce risque de l'immobilier de bureau aux États-Unis? Regardez le vert clair. Regional Local Bank. Et rappelez-vous la crise des banques régionales américaines au printemps 2023. Ça peut être un risque systémique. Pardon, ça. Ouais, ici, au-dessus. J'ai pas encore l'habitude de gérer mon nouveau setup. Voilà, bon, alors là, je voulais faire une introduction là-dessus. Maintenant, on va quand même passer dans le sujet, cette inertie haussière, ce surachat. Alors, rapidement, brièvement, comme je le fais chaque semaine, les temps forts fondamentaux de la semaine. Voilà, la semaine dernière, vous aviez eu les minutes du FOMC, les minutes du FOMC et les PMI, qui étaient les temps forts fondamentaux. Concrètement, tout ceci a confirmé quoi? Que la Fed ne pivoterait pas le mercredi 20 mars. D'ailleurs, où est-ce que ça en est? Tout statue autour de la Fed. En termes de probabilité implicite, maintenant le marché hésite entre un pivot le 12 juin ou un pivot le 31 juillet. Donc vous voyez que ça a été assez largement reporté dans le temps. Donc les temps forts fondamentaux de cette semaine sont la mise à jour de l'inflation PCE aux États-Unis. Je vous rappelle que l'inflation PCE, c'est l'indice d'inflation favori de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous avez au-dessus de ma tête là, ça sort de mon petit truc, l'inflation PCE qui est en chute libre. Elle est actuellement à 2,9 en version sous-jacente à 2,6. Donc vous voyez que d'un point de vue du PCE, il n'y a pas d'inquiétude à la différence du CPI. Et donc ce chiffre est mis à jour cette semaine, jeudi, ce sera très important. Je vous rappelle qu'au final, beaucoup se posent la question, cette inertie haussière tant qu'il y a des perspectives de bénéfices, le marché action continuera à dérouler cette inertie haussière et les retracements seront achetés. Et rappelez-vous, le juge de paix macroéconomique, le juge de paix pour les projections en matière de bénéfices, c'est le marché du travail américain. Et donc, tant qu'il n'y a pas de dégradation du marché du travail américain, eh bien, alors à la fois ça éloigne le pivot de la Fed, mais ça entretient la perspective de bénéfices. Alors maintenant, on va tout reprendre sur les S&P 500, une inertie haussière à risque, S&P 500, Nasdaq Composite, Microsoft, Nvidia, Amazon, Apple, Facebook, c'est parti. Alors, donc, ce bon vieux S&P 500, je vous rappelle qu'il y a deux hypothèses. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, elle est celle d'un grand flat. Après ces 5 temps, d'une structure en flat, donc là nous serions dans soit un expanded flat ou un running flat, peu importe. Cette structure qui fait partie donc des formes en flat assez usuelles. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que ici, il y avait eu un expanded flat. Là, ce fut la crise sanitaire. Alors, le RSI, vous avez ici le RSI en données mensuelles, il n'y a pas de surachat encore. Je parlais d'un niveau de surachat extrême sur le S&P 500, c'est avant tout en données journalières et en données hebdomadaires. C'est vrai qu'en données mensuelles, il n'y en a pas. Alors que tous les anciens bull markets se sont arrêtés lorsque vous aviez au minimum un RSI en données mensuelles en surachat. Là, c'est vrai que ce n'est pas le cas sur le S&P 500. J'attire votre attention sur le fait que si on a une structure comme ça en running flat, eh bien, en atteignant 5100 points, le S&P 500 a atteint 1,236 d'extension de la A. Donc, 5100 peut être une cible. Maintenant, l'autre hypothèse, souvenez-vous, c'est que nous ne soyons pas dans un running flat, mais dans un nouveau grand bull market, dont on aurait fait la vague 1, donc dont la vague 1 sera en construction, elle-même sous décomposée en 5 temps. Et c'est cette cinquième vague dont je parle depuis l'automne dernier, qui m'a permis d'être haussier. C'est cette cinquième vague sur laquelle, depuis une semaine, j'insiste sur le risque de sa fin. Pourquoi? Parce que toutes les cibles théoriques d'extension, qu'il s'agisse d'une proportion de la 3 au bas de la 4, d'un report du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4, toutes les cibles d'extension étaient quelque part entre les 4008 et les 5000. Et le marché est allé au-delà, mais il reste encore une cible possible qui serait de reporter l'amplitude, regardez le graphique, du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4 et en reportant 1 pour 1. Donc au plus haut du plus haut, dans un marché qui resterait complètement euphorique. Moi, j'y crois pas, hein. Je pense qu'on aura une correction avant. ça pourrait aller chercher 5260. Donc, par rapport au scénario en expanded flat ou en running flat, ça peut aller jusqu'à 1,38,2. Ça donnerait aussi 5250. Moi, j'y crois pas. Je vous donne les cibles. Je vous donne les cibles théoriques. Après, chacun croit ce qu'il veut croire. Moi, je pense que 5100, c'est déjà costaud. Après, c'est vrai, il faut un signal. Donc, mais il n'y a pas de surachat en mensuel. Par contre, en hebdo, en hebdomadaire, voilà, vous voyez que toutes les fins de bull market, par exemple, avant la chute de la crise sanitaire en 2020, belle divergence haussière sur le RSI. Là, c'est le RSI. Avant la chute, même avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, belle divergence baissière sur le RSI, là. Il y avait aussi une belle div en août dernier. Il y a eu retracement. Là, alors on est complètement suracheté, il n'y a pas de div. Par contre, en journalier, il y a des divs de partout. Alors la vraie question, en journalier, c'est ça. Vous avez ici la bougie japonaise qui a été liée à Nvidia. Je vais revenir dans un instant. Pour moi, Nvidia atteint là. Pour moi, Nvidia, c'est une bulle spéculative. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Oui, ça fait beaucoup de pognon. Oui, il y a du free cash flow. Oui, c'est une grosse partie des bénéfices du S&P 500. Oui, les objectifs en termes de bénéfices ont été relevés. Mais il n'empêche qu'en termes d'action des prix, c'est une bulle spéculative. Sans Nvidia la semaine dernière, sans Nvidia, qui pourtant avait commencé la semaine en correction, et qui nous fait ce gap haussier suite à la publication dans la nuit de mercredi à jeudi de ces résultats. On dirait une crypto, ça ressemble au Bitcoin en 2020 et en 2021. Et on sait ce qu'a fait le Bitcoin après. Je ne dis pas qu'Nvidia va faire pareil, ce n'est pas comparable. Bitcoin, c'est une monnaie numérique, c'est un code informatique. Nvidia, c'est 80% des cartes graphiques. Des cartes informatiques du monde. Donc c'est. Voilà. Nvidia disparaît, l'économie mondiale est morte. Bitcoin disparaît, bon, pour en douter. Mais en termes d'action des prix, il y a un vrai parallèle. Regardez le surachat massif, c'est le RSI en bas. Regardez le surachat massif qu'a atteint Nvidia. L'objectif de cours maximal pour une vague 5. C'est reporter le bas de la 1 au top de la 3, au bas de la 4, et en reportant une fois le bas de la 1 au top de la 3, au bas de la 4. Ça a été atteint la semaine dernière. Vous savez, à partir du moment, pour l'instant, on n'a pas le signal, mais à partir du moment où vous aurez un signal de correction, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le marché aura fini ses 5 temps de hausse, il proposera soit une correction en zigzag, comme ça, soit il proposera une correction en flat. Flat régulier, expanded flat, running flat. Ce sera l'un ou l'autre. Donc, le jour où le signal sera donné sur les S&P 500, on pourra avoir ce type de truc. Ou un flat, par exemple. J'attends le signal. Moi, je dis, on n'est pas loin de l'avoir eu égard au surachat. Donc, je fais un peu rebelote par rapport à la vidéo de la semaine dernière. J'insiste sur cette surextension à la hausse, que je ne nie pas, mais pas d'œillères. Mais le fait de l'avoir développé davantage la semaine dernière, en ne reposant cette fois-ci que sur un seul titre, et même pas les Magnificent Seven, même pas les quatre fantastiques, c'est un risque. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Donc, regardez le Russell 2000. Il fout rien, le Russell 2000. D'ailleurs, il y a de moins en moins d'actions du S&P 500 qui se trouvent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Et ça, c'est un vrai indicateur divergent. Alors, reprenons par exemple aussi Microsoft. Première capitalisation boursière mondiale, ah oui, j'avoue, ça lâche rien. Oui, on n'a toujours pas cassé de support. Je trouve, moi, quand même, que nous commençons à avoir une configuration de RSI assez similaire à ce que nous avions eu ici. Mais oui, c'est vrai que pour l'instant, cette vague 5, sans cassure, voilà, ce serait de support à casser les 400. C'est pour donner un vrai signal de vente sur le S&P 500. Ce serait casser. Alors déjà, si on réintègre ça, si on réintègre les 5066, mais casser ça, casser les 4935, ce serait signal d'un retracement minimum à 4008. D'ailleurs, probablement plutôt 4006, 4007. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, effectivement, Nvidia, ça fait bulle spéculative. Après, c'est chaud de se mettre en face d'une bulle spéculative. Amazon est pas loin d'atteindre son record historique. Mais effectivement, je pense qu'Amazon ira jusque-là, avant de se calmer. Google, d'ailleurs, regardez ce qu'a fait Google, hein. Record historique, retracement. Je pense que nous avons le schéma sur Google sera celui qui appliquera Amazon. Par contre, Apple, bah, c'est plutôt sur support. Apple, c'est bien construit. C'est finalement parmi les Magnificent Seven, celle pour laquelle j'ai le moins d'inquiétude. Et si on a encore un rebond d'Apple sur sa moyenne mobile à 200 jours, soutenu en plus par le nuage hebdomadaire de l'Ichimoku, effectivement, Apple là pourrait venir contribuer. Donc, alors s'il y a un passage de témoin entre les actions des Magnificent Seven, ça peut continuer d'entretenir cette inertie haussière du S&P 500. Facebook. Allez, Facebook. C'est complètement incroyable. Là, le signal cassure, ça relance. Mais regardez le RSI de Facebook. Ça n'a jamais été autant suracheté. C'est pour ça que moi, je parle, même en mensuel. En mensuel, Facebook, le RSI mensuel. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité en voulant choisir le titre de cette nouvelle vidéo, de cette nouvelle édition du Top Gun. Mais j'ai pensé que. Son Nasdaq, c'est pareil. Hein. J'ai pensé que le surachat extrême était un bon titre. Mais encore une fois, un marché en tendance haussière peut rester longtemps en surachat. Le signal, c'est quoi? C'est lorsqu'on ressort par le bas de la zone de surachat. Alors, au préalable, qu'on puisse avoir activé une divergence ou pas. Enfin, en tout cas, voilà, faites attention. Mais effectivement, c'est à la question peut-être que certains se posent, et on m'a posé la question, est-ce que c'est un bull trap? Écoutez. On dira que c'est un bull trap si on réintègre le niveau, si on repasse sous les 5066. Là oui, c'est un bull trap. On verra bien. Pour l'instant, voilà, donc je vous ai donné les cibles possibles, les signaux si jamais c'est un bull trap. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez me tout jeter à la poubelle. Non, je plaisante, plaisante. Bon, j'espère que ça vous plaît comme ça, ce nouveau setup, un peu qu'on puisse se voir en face, le vis-à-vis, en face-to-face, et puis que derrière, bientôt, des choses arrivent. Ça m'a marqué, surperformance des indices européens. Je crois vous en avoir parlé la semaine dernière. Je suis assez content de ce qu'a fait le SMI, assez content de ce qu'a fait l'Eurostock 50, le CAC 40, en grande partie porté par les valeurs du luxe, en particulier la Skyrocket qui a été l'action LVMH. On verra bien cette semaine. Mais effectivement, ces indices européens, encore une fois, je vous rappelle, l'indice qui représente les indices européens, contre lequel on ne joue pas parce que il s'agit du contrat à terme le plus tradé par la finance institutionnelle européenne, à savoir le contrat futur Eurostoxx 50. Je vous ai montré cette cassure il y a 2 semaines, et bah, dans le sens de la tendance, cassure technique. Voilà, ça peut être l'objectif de fin d'année sur les actions européennes, qui sont quand même nettement moins perchées que le S&P 500, selon le benchmark ici de quel Eurostoxx 50. Alors, le SMI, je vous avais expliqué qu'il fallait faire sauter les 11 265 pour faire quelque chose. Le marché, alors là ici, il peut y avoir un Golden Cross. Ça reste quand même faiblard, mais les Roche, les Nestlé, les Novartis étaient quand même dans des zones basses. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo spéciale Fast and Forex sur mon scénario baissier modéré à court terme sur le franc. Et effectivement, il y a eu modestement un rebond du taux euro CHF. Ça fait partie des éléments qui lui permettent enfin de sortir de sa léthargie. C'est pas non plus la folie furieuse. Hein, si vous prenez le SMI sur l'horizon de temps hebdomadaire, bon, il y a un bouchon ici, on le voit. D'ailleurs, le bouchon ici à 11 570, c'est quoi? C'était ici le cours de clôture. Ça a été le niveau ici cassé ensuite au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais moi, j'ai toujours maintenant un biais bullish. Un biais bullish au-dessus des 11 265 d'un point de vue chartiste. Et au-dessus du nuage ici, au-dessus du RSI 50. Un biais bullish plutôt modéré, mais quand même. Sur ce SMI. Voilà, les actions européennes qui alors, encore une fois, voilà, moi tant que j'ai pas un signal baissier sur l'Eurostoxx 50, alors ça peut retracer comme d'habitude. On peut faire un pullback ici et repartir. Car ici, c'était quand même sur l'Eurostoxx 50, c'était quand même l'ancien record de 2007. Souvenez-vous, le contrat futur Eurostoxx 50 est le plus tradé. Donc pour optimiser votre trading du contrat futur DAX ou du contrat futur CAC, imagine surtout le DAX parmi vous. Laissez-vous d'abord guider par le timing du contrat futur Eurostoxx 50. La Chine, le Japon, alors l'Asie, la Chine, le Japon, et on va terminer là-dessus. Alors moi, le Nikkei, je dis prenez au bénéfice. Après, le Nikkei qui est revenu au top de. Et, le marché action chinois, rappelez-vous ma stratégie, moi j'estime que ce début d'année 2024 était l'opportunité de jouer le renversement haussier des indices boursiers chinois. Et il y a eu effectivement là, des beaux rebonds, alors en grande partie parce qu'il y a les mesures de soutien favorables au marché actions du gouvernement chinois. Ils ont notamment limité la vente à découvert, ils ont même remplacé le patron de leur équivalent d'autorité des marchés financiers. Et puis vous avez eu la semaine dernière une annonce surprise d'une politique monétaire qui devient encore plus accommodante en Chine. Plus le soutien budgétaire, j'en passe, il y a quand même tout finalement. Et en plus de ça, il y avait la survente technique, les gros supports techniques sur l'indice boursier de Shanghai et de Shenzhen. Tout ça, je vous l'ai montré. Bon. Donc là, moi, je vais vous confirmer mon point de vue sur ce sujet. Donc tout d'abord, je commence par le Nikkei, où je dis objectif atteint, mais prenez au bénéfice. Ce graphique est magnifique. Il aura fallu 15 ans pour revenir au sommet de la bulle spéculative qui se terminait à l'époque en 1989. Alors ça va peut-être faire une cassure haussière. Hein. C'est vrai que le yen reste faible. Bon, ça le yen, je vous en reparlerai dans le Fast and Forex. Maintenant, voilà, je voulais surtout vous faire le suivi pour cette bonne vieille Chine. Alors on va commencer par Shenzhen. Voilà, on se reprend à proximité de ce gros support historique. J'apprécie beaucoup le RSI qui ressort par le haut, c'est en mensuel. Donc moi, franchement, là, on est en train de faire un V-bottom. Si jamais ça retrace ici, 50%, ça se paye pour viser la MM200. Et ça a encore pris plus d'avance, Shanghai. Tout est parti, on fait un avalement haussier mensuel. Il y avait une superbe petite divergence ici en hebdo. Bon, si on retrace à la MM50, ici, ça se paye pour viser la 200. Donc ça, de ce point de vue-là, sur le marché action chinois, je pense que c'est une stratégie de moyen terme pour l'ensemble de cette année. Voilà, chers amis, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce nouveau setup du Top Gun vous a plu. Encore une fois, derrière, ce sera bientôt un fond vert, donc vous ne verrez plus le fond de ce bureau. Et puis voilà, merci mille fois à vous, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et puis voilà, bon début de semaine. Allez, salut!